Témoignages, échanges, discussions au réseau Cogeco. Voici Dan Bigra.
Salut tout le monde, j'espère que ça va bien, une belle journée, on attend une jolie canicule encore pour la fin de semaine où on va s'en sortir. Merci de nous écouter partout au Québec. On va aujourd'hui parler du gouvernement qui va prolonger les subventions salariales jusqu'en décembre. Là, on se demande jusqu'où on va avoir besoin d'arrêter, est-ce qu'on est prêt à retourner au boulot? Je parle pas seulement des gens qui travaillent, mais je parle est-ce que les industries sont prêtes à recevoir leurs travailleurs aussi. On va en parler avec François Gagnon tantôt. On se demande la question aussi, est-ce que le masque qui va devenir obligatoire samedi, comment vous voyez vos vacances avec le masque? Est-ce que c'est différent? C'est une bonne question. On veut vous entendre et je veux vous inviter à à parler avec moi sur nos lignes au 514-790-9850 ou si vous êtes à l'extérieur de Montréal au 1-866-790-9850. Alors là, on va parler de Martin Carpentier, qui est toujours recherché en lien avec la mort de ses deux filles. On fait le point avec Sabrina Rivet, qui est journaliste de Cogeco Nouvelles. Bonjour Sabrina.
Bonjour Dan.
Oui, alors dis-nous où est-ce qu'on en est.
Oui, bien en fait, il y a eu un nouveau point de presse ce matin de la Sûreté du Québec, là, je te dirais aux alentours de 7h30. En fait, on a appris quand même certains nouveaux éléments. C'est-à-dire que ce qu'on a appris ce matin, c'est que les recherches se sont étendues depuis les dernières heures, les derniers jours. Alors maintenant, les recherches se sont étalées sur environ une cinquantaine de kilomètres carrés pour tenter de retracer Martin Carpentier, toujours du côté de Saint-Apollinaire. Et les recherches sont toujours concentrées au même endroit, c'est-à-dire tout près du rang Saint-Lazare, également des rangs Bois-Joli. Pourquoi cet endroit-là? Eh bien, c'est tout simplement parce que les corps des deux jeunes filles âgées de 6 et 11 ans, donc de ces filles, Romy et également Nora, ont été retrouvées à cet endroit samedi. Alors, c'est pourquoi qu'on a vraiment concentré les recherches à cet endroit-là. Alors, ce matin, eh bien, le tout qui a repris. Il y a donc des policiers qui sont en VTT, il y a des policiers à pied, il y a un drone, il y a des maîtres chiens toujours qui sont sur place parce qu'on tente vraiment de retracer Martin Carpentier dont on est sans nouvelles depuis maintenant mercredi dernier, depuis ce mystérieux accident survenu sur l'autoroute 20. Et comme je le mentionnais, ben écoutez, les policiers ne ménagent aucun effort pour tenter de le retrouver. Et tout de suite, on peut aller écouter un extrait du point de presse d'Anne Mathieu, donc la porte-parole de la Sûreté du Québec, qui nous parle de la superficie, en fait, des recherches et qui va nous dire, est-ce qu'on pourrait peut-être aller à l'extérieur, justement, de ce périmètre-là? On peut aller l'écouter.
Une circonférence de recherche de 50 km carrés dans un environnement comme ici, c'est beaucoup, là. Donc, avant de penser à pouvoir élargir une situation, un rayon comme ça de ratissage, mais il faudrait aussi avoir quelque chose de concret, de plus concret pour nous amener ailleurs.
C'est que ça prend des preuves et c'est très logique. Et justement, hier, la porte-parole de la Sûreté du Québec nous avait indiqué qu'il y avait des éléments d'intérêt qui avaient été retrouvés dans ce boisé tout près du rang Saint-Lazare. Alors, c'est pourquoi les recherches se sont concentrées dans ce secteur-là et les recherches qui vont se poursuivre aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on va retrouver un Martin Carpentier qui est vivant? Comme je le disais hier et je le répète aujourd'hui, c'est-à-dire que plus les journées avancent, moins on a espoir de retrouver Martin Carpentier vivant. Somme toute, la Sûreté du Québec espère quand même le retrouver en vie. Pourquoi? C'est qu'on aimerait bien le questionner parce que c'est lui quand même la clé de toute cette histoire-là. Alors, elle pourrait nous indiquer davantage de détails sur qu'est-ce qui s'est produit au cours des derniers jours. Également, ben, pour ce qui est de la cause de la mort des deux jeunes fillettes, eh bien, l'autopsie a été pratiquée, mais pour l'instant, la Sûreté du Québec ne divulgue pas la cause des décès des deux jeunes fillettes. Pourquoi? C'est que si jamais on retrouve Martin Carpentier, eh bien, on voudra le questionner à ce sujet-là et on ne veut pas, disons, entre guillemets, divulguer la preuve dans les médias actuellement. Alors bon, je vous le disais, sixième journée de recherche qui a repris ici du côté de Saint-Apollinaire. On est à peu près à une vingtaine de minutes de la ville de Québec et on a posé quand même la question ce matin à la porte-parole de la Sûreté du Québec à savoir si les policiers commencent un peu à manquer d'énergie parce que les recherches s'effectuent jour et nuit. Voici sa réponse, on peut aller l'écouter.
Bien, les policiers sont toujours très motivés. C'est sûr que le travail est ardu, il ne faut pas se le cacher, mais ça fait partie du métier policier. Et les policiers ont la volonté hein, de trouver cette personne-là, des indices aussi pertinents qui permettent de le localiser. Alors, le moral est bon. Le moral est bon, il ne faut pas se le cacher. Mais oui, la fatigue quand même s'accumule.
Alors, le moral est bon encore pour les policiers, mais pour les citoyens de Saint-Apollinaire, ça, c'est une autre histoire parce que, ben là, vous comprendrez, vous habitez dans une petite municipalité qui est tout à fait tranquille, à une vingtaine de minutes de Québec, et depuis 6 jours, c'est complètement un gros branle-bas de combat avec cette gigantesque opération policière, cette chasse à l'homme pour retrouver Martin Carpentier. Alors, je vous dirais que les citoyens vivent beaucoup d'anxiété. Il y a certaines personnes qui vérifient 3 à 4 fois s'ils ont bien verrouillé leurs portes. Il y a même des gens qui ont décidé possiblement de se retirer, d'aller à l'extérieur de leur municipalité le temps que la chasse à l'homme se poursuive. Et d'ailleurs, il y a des policiers de la Sûreté du Québec qui font du porte-à-porte depuis ce matin pour tenter d'aller rassurer la population du village de Saint-Apollinaire.
Ben merci beaucoup. Je pense qu'ils vont être assurés quand ils vont l'attraper, évidemment. Merci beaucoup, Sabrina. C'était Sabrina Rivet, journaliste de Cogeco Nouvelles, qui a fait le point avec nous. On va parler tout de suite avec Marcel Savard, qui est ancien directeur adjoint général de la SQ. Bonjour, Monsieur Savard.
Bonjour, Monsieur Bigras.
Les questions sont évidemment multiples, mais d'abord. Bon, je comprends l'effort des policiers. Je me rappelle quand j'étais avec les troupes en Bosnie, ils faisaient le déminage avec une fourchette. C'était comme ça qu'il fallait faire. Alors là, on sait qu'il y a des policiers qui travaillent à genoux. Ils travaillent, là. Ils se donnent, on comprend. C'est quand même 50 kilomètres, c'est 5 par 10. Puis ça fait près d'une semaine qu'on est là. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est peut-être un peu plus... il s'est peut-être sauvé ou est-ce qu'il s'est peut-être enlevé la vie?
Ben, je vous dirais, d'abord, vous l'avez bien ciblé, hein, 5 km par 10 km, c'est immense comme territoire de recherche. En plus, le boisé est très difficile. La marche, pour les marcheurs et les chercheurs, c'est extrêmement difficile. Et vous savez, quand on fait des recherches comme ça, on les fait pas de façon aléatoire et même pas de façon, si vous voulez, les gars, vous allez aller chercher dans ce coin-là. Non, maintenant, là, les gens portent des GPS sur eux, ils ont des trajets prévus, et si on pouvait montrer à la télévision, exemple, la carte de toutes ces démarches-là, toutes ces marches-là qui ont été faites, on verrait que c'est des marches qui sont extrêmement droites et très, très, très près les unes des autres. On est à quelques pieds, hein, parce qu'avec un couvert comme il y a là-bas, on pourrait avoir un individu qui est couché au sol. Puis si on n'est pas vraiment très proche à chaque fois qu'on fait une démarche, on le verrait même pas. Donc, on voit que les gens sont en train de chercher de façon méthodique. On rapporte par cartographie tout ça et on analyse tout ça avec les indices. Parce que rappelons-nous qu'on nous a parlé d'indices. Et les indices sont multiples, M. Villegras. C'est pas nécessairement un objet laissé au sol. Ça peut être, pour les gens habitués à marcher en forêt, dans une forêt dense comme ça, on voit les traces laissées par un individu qui se déplace. On voit les endroits où il s'est reposé. On détecte tout ça. Donc, ça, pour nous, c'est pour nous. Évidemment, on a beau être à la retraite.
Oui, ça reste collé. Ouais. Mais vous croyez pas qu'il... Je sais pas, il y a des odeurs. Les chiens ont ressenti.
Ouais, ça, les chiens, c'est un outil qui est extrêmement performant, mais c'est pas infaillible. En ce sens que, on a eu une période où il y a eu énormément de marcheurs, de bénévoles qui se sont promenés dans la forêt. Et ça vient contaminer les lieux. Après ça, il y a les chercheurs, même de la Sûreté du Québec, qui contaminent aussi les lieux. Donc, quand on est en recherche avec un chien, il y a deux modèles. Il y a soit un chien qui est sur une piste, on imagine, exemple, un maître de chien qui tient son chien à l'est de 15-20 pieds en avant, puis le chien suit une piste. Donc ça, il faut croiser une piste qu'on sait être différente de celle des marcheurs, hein. Ou la deuxième méthode, c'est de la recherche libre. C'est que le chien, en général, les maîtres chiens vont se mettre face au vent et vont patrouiller de long en large, si vous voulez, à la largeur du territoire ou d'un territoire qui leur est assigné, à pied avec le chien qui est libre. Et lui, il cherche un effluve, comme imaginez un petit panache de fumée là qui serait visible. Là. Et le chien, lui, il cherche ça. Et à partir du moment où il y en a comme attraper un là, avec son nez, il va se diriger vers ça. Donc, si on a un couvert qui est tout difficile. Les vents sont difficiles, sont tourbillonnants. Le territoire est contaminé. On a une pression barométrique qui est changeante, différente. C'est ce qu'on a vu les derniers jours. Donc, tout ça fait que le travail du chien devient de plus en plus difficile. Et c'est pour ça que la nuit, il va arriver qu'on laisse reposer la scène. Oui, il y a encore des chercheurs qui se déplacent selon des bruits qu'on a entendus, des informations, des probabilités, mais c'est minimal. Et on laisse reposer la scène, se décontaminer dans le fond. Et après, on reprend avec des chercheurs, mais avec des maîtres chiens et des chiens, pour essayer justement de capter cette espèce de petit panache-là. Le chien, dans le fond, moi j'ai déjà vu, M. Bigras, quelqu'un qui s'était pendu, qui était accroché, il s'était pendu dans le haut d'un arbre, et le chien indiquait, mais personne ne trouvait. Et ça a pris un hasard pour qu'on lève les yeux pour, évidemment, déterminer que la personne était là.
Il y a une autre situation comme ça où le chien est passé, on ne sait pas combien de fois, en dessous. Le monsieur s'était pendu dans l'arbre, il avait mis fin à ses jours. Et puis, il a fallu attendre, je suis désolé des détails, mais que le corps se décompose. Et là, l'odeur devenait plus lourde et descendait vers le sol. Là, le chien l'a pogné quand il est passé là.
Exactement, M. Bigras.
Il faut vraiment regarder en haut, en dessous, partout.
Ah, c'est une démarche qui est très méthodique. Quand on parle de 5 km par 10 km, et puis qu'on va marcher en zigzag, mais de façon très, très droite, c'est un travail absolument ardu qui prend plusieurs jours. Et il n'est pas question actuellement, et j'entendais Mme Mathieu le dire, pourquoi aller changer de secteur quand on a encore des indices qui nous indiquent que on est dans le bon secteur et on n'a pas rien d'autre qui nous amène ailleurs. Donc, on va garder.
Il n'y a aucune piste qui amène ailleurs parce que sans ça, on cherche la planète en entier sans savoir où on va.
Tout à fait. Tout à fait. Et les gens, par exemple, il y a des équipes volantes dans ce genre de recherche qui, eux, vont se déplacer. Ce sont des équipes qui sont prêtes à se déplacer si jamais il y avait, exemple, un appel, une information, quelqu'un le voyait, n'importe quoi qui pourrait donner le go pour déplacer ces équipes volantes. Et les équipes volantes, là, c'est constitué de chercheurs, de maîtres de chiens, et du groupe tactique d'intervention. Ce sont des équipes là, qui sont prêtes à se déplacer à peu près n'importe où dans le secteur, selon l'information. Donc,
et ils sont équipés de détecteurs de chaleur aussi, parce que oui, si on ne le voit pas, on peut voir la chaleur dégagée.
Oui, tout à fait.
Surtout pour les hélicoptères, parce que surtout avec les feuilles, ils ne voient pas grand-chose en bas, là.
Ben, en fait, les détecteurs de chaleur, vous savez, c'est ce qu'on voit avec ça, c'est vraiment des masses de chaleur.
Oui.
Donc, quand on a eu les journées extrêmement chaudes la semaine passée, vous savez, toute roche, toute grosse roche accumule une chaleur importante. Donc, à partir du moment où on a un détecteur de chaleur, soit que par hélicoptère ou au sol, ben on va avoir une lecture. Mais vous savez, la lecture, elle est la même lecture que si c'était un corps humain qui est encore vivant. Parce que le corps humain, évidemment, quand il va refroidir, la personne est décédée, ben elle n'indiquera pas de chaleur.
Donc, ça, c'est l'autre question. Parce qu'après 6 jours en forêt, écoutez, monsieur, c'est un scout, c'est pas un soldat, là. Les soldats, ils font des cours de... Moi, ben, j'en ai un chum soldat. Lui, un de ses tests, c'est que ses supérieurs l'achetaient dans un bois qu'un couteau, arrange-toi pendant une semaine. Nourris-toi, trouve-toi à boire, abrite-toi, fais tes choses. Bon, ils sont formés. Mais scout, ça fait des nœuds, là.
Ah oui, c'est ça, tout à fait. Et à une certaine époque, plus jeune et plus fringant, j'ai fait ça, là, de me faire descendre en hélicoptère avec très peu d'outils et de dire, ben, t'as 3-4 jours pour te rendre à tel point, puis on te souhaite des belles journées.
Oui, mais je suppose que vous étiez au moins dans votre entraînement policier, vous n'étiez pas scout à ce moment-là. Là.
Non, j'étais au groupe tactique d'intervention, mais le monsieur, écoutez, on est 6 jours plus tard. Il était probablement blessé parce qu'on a retrouvé du sang à l'intérieur du véhicule. On a un individu qui se déplace certainement parce que à la scène où les deux jeunes filles ont été trouvées décédées malheureusement, il n'est pas là. Donc, on a regardé, on a analysé la scène et en plus, je fais une petite parenthèse, on est en train de faire vraiment un lien et de l'analyse avec l'autopsie, la scène, le profil de l'individu. Donc, on est en train, et tous les événements qui sont survenus pour être capable de déterminer le pourquoi et le comment. Maintenant, l'individu, là, 6 jours plus tard, pas capable de se ravitailler, pas capable de se...
Pendant 6 jours, pas manger, ça se fait, mais pas boire pendant 6 jours, c'est quelque chose.
S'hydrater. L'individu a beau être fatigué, quand il va se reposer la nuit, pour toute personne qui a vécu en ce genre de forêt, pas sûr qu'il va dormir avec les mouches qu'il y a là, les maringouins...
Mais on sait très bien que ça peut rendre fou, hein?
Ah, tout à fait. On a des gens qui sont tellement dépressifs, tellement rendus au bout. J'ai connu des situations où les gens se sont suicidés à cause de ça. Donc, on a un contexte où les jours passent. On n'a pas une personne qui est vraiment habilité plus que ça à travailler dans ce milieu hostile-là. Donc, les probabilités qu'il soit en mauvaise condition physique ou à la limite décédé augmentent avec le temps, là, actuellement. Mais pour la Sûreté du Québec, vous savez, c'est...
Les autres, ils peuvent pas décider d'une conclusion. Il faut qu'ils le trouvent, puis c'est tout. Merci beaucoup, Monsieur Savard. Ça éclaire nos lanternes. Merci beaucoup. C'était Marcel Savard, ancien directeur général adjoint de la Sécurité du Québec. Après la pause, je veux vos téléphones. Appelez-moi au 514-790-9850 ou en dehors de la ville, 1-866-790-9850. Comment vous envisagez vos vacances avec le masque? À tout de suite.